Bismillahi wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 17 du mois de Safar de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le cinquième cours. Le cinquième cours concernant notre série de cours sur le commentaire de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous nous étions arrêtés à sa parole, comme à notre habitude. Je le lis en arabe puis une traduction approximative en français avant de commencer le commentaire. Il dit rahimahullah ta'ala: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى ici dans le matin que j'ai ici من العبادة. Et dans certaines versions, vous trouvez « min al-ibadat », donc le pluriel de « ibada ». Ici, « min al-ibadat illati amara allahu biha kulluha lillah wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tadu'u ma'allahi ahada faman sarata minha shay'an li ghayri allahi fahuwa mushrikun kafir. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. On s'arrêtera ici pour aujourd'hui car je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer plus que cela. On va essayer déjà, musta'inina billahi tabaraka wa ta'ala, de faire le commentaire de ce que nous avons lu ici. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullahu ta'ala, il dit, parmi les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, nous trouvons l'islam, l'iman, l'ihsan, ainsi que l'ad-du'a, l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, l'amour, la crainte, l'humilité, la repentance, demander le support, chercher refuge et protection, appeler au moment de la détresse, sacrifier, faire un vœu pieux, ainsi que plusieurs autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Elles sont toutes réservées à Allah exclusivement. Et la preuve se trouve dans le verset suivant, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et il dit, Ta'ala, quiconque offre, pardon, et il dit, Rahimahullah, quiconque offre une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un mushrik, c'est-à-dire un idolâtre et un mécréant. La preuve de cela est dans le verset suivant. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Ainsi que dans le hadith, le dua, l'invocation, c'est le cerveau, l'essence, la base de l'adoration. La preuve que l'invocation ad-dua est une forme d'adoration, dans la parole d'Allah, Ta'ala, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. La preuve de la peur, al-khawf, se trouve dans le verset suivant. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. La preuve de l'espérance, Ar-Raja, dans le verset suivant. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. La preuve de At-Tawakkul, c'est-à-dire le fait de se remettre à Allah, de placer sa confiance en lui, dans le verset suivant, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et dans le verset suivant, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. La preuve de l'amour, le désir, Ar-Raghba, comme cela de la crainte, Ar-Rahba, comme cela de l'humilité, Al-Khushu'a, dans le verset suivant, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. La preuve de la crainte, Al-Khashya, dans le verset suivant, ne les craignez donc pas et craignez-moi. La preuve du repentir ou d'une forme précise de repentir, Al-Inaba, dans le verset suivant, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Comme je l'ai dit, nous arrêterons ici. Et nous dirons que, ici, Cheikh l'Islam commença par citer des sortes d'adoration, après nous avoir démontré que cette adoration, le seul qui l'a mérité était le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, Tabaraka wa Ta'ala. Il nous cita alors certaines sortes d'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Nous l'avons déjà défini et nous continuerons à le rappeler à chaque fois que l'occasion se présente afin de bien maîtriser ce sujet, qui est un sujet qui est primordial pour le musulman de le maîtriser. Puis nous rentrerons après dans ces sortes d'adoration pour les expliquer. Donc, Al-Ibada. Qu'est-ce que Al-Ibada? Normalement, on l'a tellement rappelé que vous levez tous la main. Qu'est-ce que Al-Ibada, hafidhakum Allah? Kenzi, tfaddal.
C'est un nom général sur vous, sur Allah, un adoré, comme acte, parole, que ce soit parent.
Ahsant. Ahsant, barakallahu fik. Ceci est Al-Ibada. Ici, Cheikhul Islam va nous citer plusieurs sortes d'adoration. Il commencera en citant Al-Islam, ou Al-Iman, la foi, ou Al-Ihsan, la bonté. Puis, il cita Al-Dua, la vocation, la peur, etc., que nous allons détailler ici. Et bien sûr, comme le titre du livre, Al-Usul al-Thalatha, et dans certains de ces manuscrits, وَأَدِلَّتُهَا, donc les trois fondements et leurs preuves. Donc, comme à son habitude, dans ce livre, comme dans autre que ce livre, Cheikhul Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous rapporte à chaque fois qu'il évoque une mas'ala, à chaque fois qu'il parle d'un point, qu'il évoque une affaire, il rapporte les preuves du Coran et de la Sunna concernant cette affaire. Ici, lorsqu'il nous rapporta ces sortes d'adorations et les énuméra, il les énuméra en premier lieu, puis les détailla en donnant la preuve de chacune d'entre elles. Ici, bien sûr, parmi ces sortes d'adorations, Al-Islam, avec ses piliers, et tu te dois d'adorer Allah Azza wa Jalla parce qu'il t'a ordonné parmi ses œuvres qui rentrent dans les œuvres de l'islam, qui sont des adorations. Parmi cela, la prière, le jeûne et autres que cela. Comme cela, la foi avec ses œuvres qui sont en rapport avec la foi, parmi ses œuvres qui sont des œuvres du cœur, des œuvres cachées comme la foi en Allah Azza wa Jalla, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en le jour dernier, ainsi que la foi en la prédestination, bonne ou mauvaise. Comme cela, la peur, l'amour, l'espérance et autre que cela. Tout ce qui est en rapport avec les œuvres du cœur rentre celle-ci dans les adorations ou dans l'adoration. Plutôt, comme le dit ici Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les œuvres du cœur font partie des adorations les plus hautes. Font partie des plus hautes adorations et des plus importantes. Il est donc obligatoire à chaque musulman responsable d'être sincère dans son adoration à Allah tabaraka wa ta'ala et de l'adorer lui seul et sans associé. Il ne doit donc pas invoquer en dehors d'Allah Azzawajal, ni ange rapproché, ni messager envoyé, ni idole, statue, ni arbre, ni pierre, ni étoile, car l'adoration est un droit exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il le dit. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Ici, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, sera basé sur cela, sur l'explication de ces sortes d'adoration. C'est quelque chose qui est très important, on va donner des définitions. Comme d'habitude, ces définitions, il est vraiment meilleur pour vous de les apprendre, de les noter, de les apprendre. On va essayer, la plupart je les ai rapportées des livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, comme son explication de l'Usul al-Salasa. Revenez vers celui-ci pour plus de détails, car Cheikh, rahimahullah, a très bien expliqué toutes ces sortes d'adorations. Parfois, je prendrai d'autres livres, comme d'habitude, parfois de l'explication de Cheikh Ubaid, parfois de l'explication aussi de Cheikh Raslan, concernant un livre comme cela de Cheikh Al-Fawzan, concernant un livre de Cheikh Al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui porte un épître qui porte sur ces sortes d'adorations, qui s'appelle Al-Jami' li'ibadatillah wahda. C'est un épître qui est peut-être peu connu du grand public, parmi les petits épîtres qui ont été écrits par Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui s'appelle Al-Jami', donc celui qui rassemble les ibadatillah wahda, celui qui rassemble les adorations d'Allah seul et sans associé. Donc dans ce petit épître, Cheikh l'Islam rapporte toutes ces sortes d'adorations qu'il a rapportées ici dans le Usul al-Salasa, puis les explique, leur donne une explication concise, et rapporte aussi d'autres sortes d'adorations. Et nous trouvons que parmi nos savants qui ont expliqué ce livre-là, je vous conseille de revenir si vous voulez plus d'informations par rapport à cela, Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, Habibullah, qui a expliqué ce livre, Al-Jami' li'ibadatillah wahda. Comme cela, nous trouvons aussi Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Habibullah, qui l'a expliqué, et il rapporte beaucoup dans son livre des paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah et de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et comme cela, un livre qui est très important concernant Al-Ibadah, je vous dis, je vous donne ce livre, je n'ai pas une grande connaissance de ce qui est traduit en français, mais je pense qu'il y en a certains qui sont traduits. Encore une fois, je ne connais pas très bien les maisons d'édition, à part celles auxquelles il faut faire attention, comme par exemple des maisons d'édition qui sont de mauvaises maisons d'édition, comme El Bayyina, etc., qui sont des maisons d'édition à ne pas, vers lesquelles ne pas revenir. Mais je vous les donne en arabe, et après vous regardez s'il y a cela en français, pour ceux qui comprennent l'arabe, qu'ils reviennent vers ces livres. Un livre qui est très important concernant El Ibada, le sujet de l'adoration, le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle Al-Ubudiyya. C'est un livre qui est très important, qui est un livre exceptionnel concernant ce sujet, le sujet de l'adoration. C'est dans ce livre où il parle, où il donne cette définition que nous avons l'habitude de répéter sur l'adoration. وَاسْمُنْ جَامِعُنْ لِكُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. Cette définition, elle la donne dans ce livre-là, Al-Ubudiyya. Et nous trouvons parmi les ulama qui ont expliqué ce livre, comme cela, Al-Allama Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Ici, je commencerai, avant de parler de cette première sorte d'adoration qui est Ad-Du'a, par vous parler des piliers de l'adoration. Il faut savoir que l'adoration, Al-Ibadah, est construite sur trois piliers. Ces trois piliers qui doivent impérativement se retrouver dans chaque adoration, dans chacune de tes adorations, doit se retrouver trois piliers. Elle doit être construite sur trois piliers. Ces trois piliers qui sont Al-Mahabba, l'amour, Al-Khawf, la peur, Wal-Raja, l'espérance. Et la preuve de cela, tu la récites minimum 17 fois par jour. Tu répètes la preuve de cela, de ces trois piliers, minimum 17 fois par jour. Quelle est la preuve de ces trois piliers? Kenzi, tfaddal.
C'est le
verset de surat Al-Fatiha. Ahsant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La preuve de Al-Mahabba, de l'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim. La preuve de Ar-Raja, l'espérance. Maliki Yawmiddin. La preuve de la peur. Car Alhamd, est un éloge, une louange que tu fais à Allah tabaraka wa ta'ala, et elle doit être impérativement accompagnée d'amour. Si elle n'est pas accompagnée d'amour, ce sera appelé un simple éloge, al-madh. Comme cela, donc lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que tu loues le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, tu lui fais son éloge, tu le loues avec une chose, avec le fait que tu accompagnes cet éloge d'amour pour lui, tabaraka wa ta'ala. Comme cela, lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu parles du, comme ils le traduisent bien souvent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu parles de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela, Ar-Rahman Ar-Rahim sont deux noms donnés à Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah Azza wa Jal s'est donné, subhanahu wa ta'ala. Et tu parles donc de sa miséricorde, ce qui t'emmène à espérer en lui et en sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons la preuve ici de l'espoir Ar-Raja. Comme cela, Maliki Yawmiddin, tu parles du Seigneur de Yawmiddin. Qu'est-ce que Yawmiddin? Ad-Din ici, le mot Ad-Din ici, veut dire la rétribution. C'est pour ça que tu le trouves traduit bien souvent. Malik Yawmiddin, le Seigneur au jour de la rétribution. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla parmi ses noms, Ad-Dayyan, Ad-Dayyan, comme il fut rapporté dans un hadith authentique. Celui qui rétribue ses serviteurs, donc Malik Yawmiddin, le Seigneur au jour de la rétribution, ce qui t'emmène à avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que chacune de tes adorations devra être construite sur ces trois piliers qui sont les piliers de l'adoration. Donc l'amour, l'espérance et la peur. Al-mahabba wa al-raja wa al-khawf. C'est très facile. Tu te rappelles des trois premiers versets de Sourate al-Fatiha et tu te rappelleras de ces trois piliers sur lesquels doivent être construits l'ensemble des adorations. Cheikh l'Islam ici nous parle de Ad-Du'a, qui est traduit par l'invocation. Nous avons déjà expliqué dans des cours précédents que Ad-Du'a était de deux sortes. Ad-Du'a se divisait en deux sortes. Du'a mas'ala wa du'a ibada. Du'a mas'ala wa du'a ibada. Du'a mas'ala qu'on pourrait traduire par la vocation de demande, et du'a ibada par la vocation d'adoration. Et pour résumer, comme on l'a déjà résumé dans des cours précédents, du'a ou mas'ala, c'est le du'a, la vocation que tu fais pour demander un besoin. Tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jal. Du'a mas'ala, le du'a, la vocation de demande, c'est-à-dire que tu demandes un besoin à Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, ceci est une adoration. La deuxième sorte de A, ibada, qu'on pourrait traduire par l'invocation d'adoration, c'est ce qui, c'est une invocation par laquelle le serviteur demande exclusivement la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande de besoin, il n'y a pas une demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Simplement, lorsque tu fais cette sorte de A, ibada, l'invocation d'adoration, tu recherches simplement la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette adoration que tu lui auras vouée. Nous avions donné un exemple dans les cours précédents pour faire la différence entre ces deux-là. Nous avions dit que, par exemple, du'a mas'ala, du'a de demande, comme le fait que tu demandes à Allah Azza wa Jal de venir, de subvenir à tes besoins, tu lui demandes ta subsistance, tu lui demandes le pardon, tabaraka wa ta'ala, tu lui demandes quelque chose. En ce qui concerne du'a al-ibada, donc l'invocation d'adoration, nous avions donné un exemple. Est-ce que vous vous rappelez un du'a qui est venu dans la sunna, qui est un du'a ibada? Est-ce que vous avez un exemple dans la prière ahsante, mais pas la prière en soi-même, juste un du'a que tu fais dans ta prière? Ahmadou, tafaddal. Hein? Ahsante. Du'a l'istiftah, le du'a que tu fais lorsque tu ouvres ta prière, donc le du'a d'ouverture de ta prière, pas n'importe lequel, il y a plusieurs bien sûr du'a d'ouverture qui sont rapportés dans la sunna. Quel du'a, Yahmadou, tu parles?
C'est le
bidaya. Est-ce que dans le du'a istighfar qui est du'a ibadah, c'est lequel? Est-ce que dans Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya, est-ce qu'il y a une demande ou il n'y a pas de demande? Il y a une demande. Le du'a ibadah, c'est celui, et regardez l'ulama quand il parle de ça, il dit c'est celui qui a été choisi par l'imam Ahmed, et cela fait partie du fiqh de l'imam Ahmed. Rahimallah, il est rapporté dans son musnad, et c'est celui qui a été choisi par l'imam Ahmed, bien que, par exemple, le du'a Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya, كما بعثت بين المشرق والمغرب, ce dua se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Mais pourtant l'imam Ahmed a choisi l'autre dua. Pourquoi l'ulama le dit? Ça fait partie du fiqh de la science de l'imam Ahmed, du fait qu'il a choisi ce dua, car c'est un dua ibadah où il y a simplement, il n'y a pas de demande. Le serviteur ne fait pas de demande, simplement il s'adresse à Allah tabaraka wa ta'ala, il l'adore par ce dua. Quel est ce dua qui est rapporté par l'imam Ahmed? Faddal. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Regardez dans ce dua, il n'y a pas de demande, pas de mas'ala. La personne ne demande rien, c'est une simple ibada. La personne fait l'éloge d'Allah Azza wa Jalla, l'adore simplement et demande sa récompense par cela. Ceci est un exemple de dua ibada. Une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans le sens de ces paroles, il dit toute invocation d'adoration, toute dua ibada implique forcément un dua mas'ala, c'est-à-dire un dua de demande, une invocation de demande. Toute invocation d'adoration implique une invocation de demande. Et toute invocation de demande renferme le sens d'invocation d'adoration. À chaque fois que tu fais un dua de demande, il y a bien, ceci est bien sûr une invocation, donc cela renferme le sens de la de pardon, ceci est bien sûr une adoration, ceci renferme bien sûr le sens de l'adoration. Et il dit sur l'islam que toute dua de ibada, d'adoration, implique la demande. Car à partir du moment où tu reconnais que ce dernier est ton créateur et le seul qui mérite l'adoration, eh bien c'est vers lui que tu vas te tourner pour demander tes besoins. Donc ce dua, à partir de là, ce dua d'adoration implique le dua de demande. Le fait que la personne revienne vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala pour lui demander ses besoins. Un point par rapport à cela, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a rappelé concernant le dua, comme cela Cheikh Raslan Habibullah a rapporté cette parole de Cheikh Ibn Baz en validant sa parole, en acceptant sa parole. Il dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ceci juste pour résumer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le dua, mais il dit, lorsqu'une personne fait le dua d'une personne qui est vivante, présente et capable de répondre à tes besoins, comme le fait, il a appelé, ici Cheikh Ibn Baz, il a parlé de dua dans son livre, il rapporte sa parole, comme cela Cheikh Raslan rapporte la parole de Cheikh Ibn Baz en acceptant cette parole. Il dit, l'invocation, ou dua, donc il utilise ce sens-là, dua, de la personne qui est vivante, présente et capable de répondre à cette demande, comme le fait qu'une personne demande de l'aide à une autre, dans une chose qui lui est capable de réaliser, de répondre à cette demande, eh bien dans ceci, il n'y a pas de mal. Dans ceci, il n'y a pas de mal et ceci ne rentre pas dans l'association. Comme lorsque tu dis à ton frère qui est présent, tu lui dis « Abdallah, aide-moi à couper cet arbre ou à creuser ce puits. » Il dit « Il n'y a pas de mal dans cela. » Ici, Cheikh al-Islam, Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, parle de « dua » lorsque tu fais ce « dua », cette invocation, il a utilisé le mot « dua ». Et tu trouveras certains parmi les gens de science qui te diront que ici, on n'appelle pas cela dua, car on appellera cela plutôt une demande, pas là, et non le mot dua. C'est pour vous rapporter, certaines parlent de ça, on voit que Cheikh Ibn Baz a appelé cette chose-là dua, mais il a conditionné par le fait que la personne soit présente, vivante et ait la capacité. Certains parmi les gens de science diront cette chose-là, on n'appelle pas ça dua, on n'utilise pas ce mot-là dua, plutôt on utilise le mot talab, c'est-à-dire demande, et non le mot invocation. Une dernière chose, Cheikh al-Islam ici, dans les preuves qu'il rapporte concernant Ad-Dua, il rapporte un hadith qui est Ad-Dua, Mukhul Ibadah. Donc, l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration, c'est la tête de l'adoration, comme on peut le traduire approximativement. Ce hadith est un hadith qui est faible, qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui a une chaîne de transmission qui est faible. Et le hadith qui est un hadith authentique, par lequel on peut le remplacer, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna du'a huwa al-ibada ». Certes, l'invocation, c'est l'adoration. « Inna du'a huwa al-ibada ». Et dans ce hadith, qui est un hadith authentique, nous voyons la grande place de l'adoration. La grande place de l'adoration, de l'invocation, pardon, et sa grande place parmi les adorations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, l'invocation, c'est l'adoration. Pour cela, Cheikh l'Islam l'a rappelé en premier dans ces sortes d'adorations. Juste une petite faïda pour les frères, inshallah, qui rentrent dans Kouliyat al-Hadith bientôt, inshallah. Ici, ce hadith, al-du'a, mukhul ibada, est un hadith qui est faible. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son Jami', dans son livre qui est appelé Sunan, généralement. Et il dit, ce hadith est un hadith qui est étrange. Bon, ça c'est une manière dont l'imam al-Tirmidhi a de parler de certains hadiths. Ceci, il l'a expliqué à la fin de son livre al-Jami'. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire étrange, etc. Ceci ne nous intéresse pas. Il dit, c'est un hadith qui est étrange, de cette manière, rapporté de cette manière. Et nous ne le connaissons pas, ce hadith, que rapporté par Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a, vous allez l'entendre beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de cela. Sinon, on peut rentrer dans des choses qui sont en rapport avec la science du hadith. C'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour notre cours. Mais ici, ce nom-là, vous risquez de l'entendre longtemps. Il s'appelle Abdallah Ibn Lahi'a. Lahi'a. Ibn Lahi'a. Souvent, tu entends. Les savants, ils disent le hadith est faux, car il y a dans la transmission Ibn Lahi'a. Donc tu vas entendre beaucoup ce nom-là qui te sera rapporté. Ibn Lahi'a, c'est quelqu'un qui était sadouq chez les gens du hadith, c'est-à-dire très véridique. Sadouq, très véridique. Mais qui avait une mauvaise mémoire. Et il avait l'habitude de rapporter de ses livres. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude d'écrire le hadith qu'il entendait, qu'il rapportait. Et quand il rapportait, il prenait le livre et lisait. Chose qui est pratiquée bien souvent chez As-Salaf radhiyallahu anhu, chez nos prédécesseurs, le fait qu'il rapportait du livre. On a des paroles qui sont rapportées de l'imam Ahmed, rahimahullah, où il dit qu'il préfère quelqu'un qui rapporte de son livre, et lorsque son fils lui demande pourquoi, il dit combien une personne peut apprendre de hadith, combien une personne peut mémoriser de hadith. Alors que l'écriture, il est là. Ces livres-là préservent les hadiths que tu rapportes, préservent la science que tu as rapportée. L'imam Ahmed s'exclame en disant, et combien une personne peut-elle rapporter de mémoire? Lorsque son fils lui demande, pourquoi tu préfères qu'une personne rapporte de son livre? Car dans son livre, il sera plus minutieux lorsqu'il rapporte. Comme cela, certains parmi les salafs, ils disent, le livre, le fait de rapporter du livre est préférable pour moi que l'oubli. Le fait de rapporter du livre est préférable. Pourquoi je parle de cela aussi, une petite parenthèse, car on peut entendre plusieurs personnes qui s'exclament et qui sont trompées par des gens qui ont peut-être un petit peu de mémorisation, une force dans la mémorisation en apparence, car si tu cherches un petit peu, tu trouveras que la personne n'est pas comme elle le prétend. Elle cite un hadith, elle donne même le numéro du hadith, rapporté par l'imam Bukhari, numéro, tac, 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 tac. Si tu reviens au numéro, bien souvent tu ne trouveras pas ce numéro-là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et ils sont étonnés par cela, et ils grandissent cette personne de par cette forte mémoire qu'il a. Alors que cette chose-là n'est pas une chose. Bien sûr, alhamdoulilah, chez nos pieux prédécesseurs, pour ne pas dire que ce n'est pas une chose qui était estimée, chez nos pieux prédécesseurs, la mémoire, bien sûr, est une chose qui était estimée. C'est pour cela que les savants du Jarh wa Ta'dil, ils disent, par exemple, de Ibn Lahi'a, qu'il était faible dans sa mémoire. C'est une chose qui est estimée chez eux. Mais ce n'est pas une chose par laquelle ils étaient étonnés au point d'élever une personne de cette manière-là. Plutôt, on voit beaucoup de paroles rapportées de salaf sur le fait qu'ils préféraient qu'une personne rapporte de son livre. Ils avaient plus confiance lorsque la personne rapporte de son livre. Et comme cela, combien une personne peut mémoriser de la hadith? Personne qui parle toujours sans avoir une feuille devant lui. Combien une personne peut rapporter de la hadith? Est-ce que le fait de mémoriser, c'est meilleur pour toi? Le fait de rapporter d'un livre, c'est meilleur pour toi ou l'oubli? Si tu n'écris rien, tu finiras par oublier. Illa an yasha Allah. Donc Ibn Lahia, c'était une personne qui était très véridique, mais qui avait une mauvaise mémoire et qui avait l'habitude d'écrire. Et un jour, ses livres ont brûlé. Donc les livres où il rapportait l'ahadith, ses livres ont brûlé. À partir de là, les ulama disent, celui qui rapporte de lui après que ses livres ont brûlé, bien sûr, Ibn Lahia rapportera de sa mémoire. Donc, vu que c'est une personne qui a une mauvaise mémoire, celui qui rapporte après que ses livres ont brûlé, encore une fois, on voit l'importance des dates et de connaître l'histoire et les dates, comme je vous l'ai dit précédemment. Eh bien, on saura que ce hadith ne sera pas accepté. Car on prend le fait de rapporter un hadith d'une personne qui a une mauvaise mémoire et qui n'a plus de livres, on sait très bien que ce n'est pas une chose acceptable. Comme cela, donc, l'ulama, une faïda pour terminer par rapport à ça, Ibn Lahia, c'est quelqu'un qui était estimé, donc après que ses livres aient brûlé, estimé comme quelqu'un de faible de par sa mauvaise mémoire. Et les savants, bien sûr, il a plusieurs paroles à rapporter sur Ibn Lahia, mais en résumé, une petite faïda pour les frères qui rentrent dans le kouliyat de hadith bientôt, Inch'Allah, ou même pour la connaissance, Hamidakumullah. Les savants ils disent que Ibn Lahia, on prendra ce hadith lorsque celui qui rapporte de lui, dans la chaîne de transmission, celui qui rapporte de Ibn Lahia, il fait partie de l'Abadi la Salasa, les trois Abdallah. Est-ce que vous connaissez ces trois Abdallah? Est-ce que l'un d'entre vous sait qui sont ces trois Abdallah? Là, Abdallah ibn Mas'ud ou Ibn Abbas, ce sont des Sahaba. Ibn Lahia, il ne faisait pas partie des Sahaba, il faisait partie des Tabi'in ou Atba' al-Tabi'in. Donc Ibn Lahia, ces trois Al-Abadi-là, qui, lorsqu'il rapporte d'Ibn Lahia, nous prenons le hadith de eux. Ils sont Abdallah ibn al-Mubarak, l'imam, Abdallah ibn Yazid al-Muqri, l'imam, et Abdallah ibn Wahb, l'imam. Abdallah ibn Yazid al-Muqri, Abdallah ibn Wahb, et Abdallah ibn al-Mubarak. Ces trois, Al-Abadi al-Thalatha, c'est eux, lorsqu'ils rapportent d'Ibn Lahia, que nous acceptons de rapporter Al-Hadith. Ceci concernant Ad-Dua. Ad-Dua, comme vous le voyez, on s'est attardé un petit peu, quand on peut dire, car Ad-Dua, comme le dit le professeur Sallam, Huwa al-Ibada. Ad-Dua, la vocation, c'est l'adoration. Il nous montre cette place, sallallahu alayhi wa sallam, cette place très importante de l'invocation. Donc cette adoration mérite que l'on s'y attarde encore et encore, et que nous fassions, à propos de Ad-Dua, des conférence. Le deuxième de ces adorations, la deuxième de ces adorations qu'a rappelé Cheikh l'Islam ici, Al-Khawf, qui est la peur. Qu'est-ce que Al-Khawf? Pour résumer, les ulama ils disent Infi'al yahsulu bitawakku' amrin makruh. Infi'al yahsulu bitawakku' makruh. Pour résumer, Al-Khawf, la peur, c'est un sentiment qui est provoqué lorsqu'on s'attend à une chose détestable. Un sentiment, on dit une chose détestable, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les nuisances, la perdition, ça englobe beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit une chose détestable. Donc, c'est un sentiment qui se produit en nous, bien sûr. Al-Khawf, c'est quelque chose qui arrive, qui vient dans le cœur de l'un d'entre nous. Al-Khawf, donc la peur, est un sentiment qui arrive lorsqu'on s'attend à une chose détestable. Et les savants, lorsqu'ils parlent de l'khawf, de la peur, ils disent que la peur se divise en trois sortes. La première est ce qu'on appelle la peur naturelle, l'khawf al-tabi'i, la peur naturelle, comme le fait qu'une personne a peur des fauves, lion, tigre, etc. Comme cela, le fait qu'une personne a peur du feu, a peur de la noyade, etc. Et toutes ces choses sont des choses à propos desquelles le serviteur, lorsqu'il aura peur de celle-ci, il ne sera pas réprimandé. Nul grief sur lui d'avoir peur de ces choses-là. Mais, ceci est très important, les savants disent que si cette peur, qui est une peur naturelle, devient une cause que le serviteur délaisse une obligation ou qu'il fasse un interdit, qu'il tombe dans un interdit, eh bien à ce moment-là, cette peur-là deviendra interdite pour lui, deviendra quelque chose d'interdit. Si cette peur, qui est une peur naturelle, devient une cause qu'une personne tombe dans un interdit ou délaisse une obligation, eh bien, cette peur-là deviendra interdite pour lui. La deuxième sorte de peur, ce qu'on appelle la peur d'adoration, khawful ibada. C'est le fait qu'une personne ait peur de quelqu'un et qu'il se rapproche, qu'il adore par cette peur qu'il a de cette personne. C'est-à-dire que cette peur de cette personne, ce sera une chose par laquelle il fera une adoration. Il en fera de cette peur une adoration. Il fera de cette peur qu'il a d'une personne une adoration. Cette peur-là, bien sûr, n'est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cette peur-là ne doit être vouée que à Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne n'aura pas le droit d'avoir cette peur que pour Allah azza wa jalla. Ceci fait partie des trois piliers de l'adoration, comme nous l'avons évoqué au début du cours. La troisième sorte est ce qu'on appelle khawfu sirr, c'est-à-dire la peur secrète. La peur secrète. Cette peur-là, nous la retrouvons chez certains adeptes de plusieurs voies soufis. Le fait qu'ils ont peur d'une personne d'une manière secrète et cachée. Et bien sûr, cette peur-là ne devra être vouée que à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'une personne aura peur d'une autre en secret, d'une manière cachée, d'une manière dont cette peur se manifeste par le fait qu'il pense et croit que cette personne dont il a peur peut, a une capacité sur lui, a un pouvoir sur lui. Et cette chose-là, comme je l'ai dit, nous le retrouvons chez les adeptes des voies soufis, lorsqu'ils ont peur d'une personne qui est le cheikh de la tariqa, le cheikh de la voie, qui se trouve à 10 000 kilomètres de lui, et il ne se permet pas de faire une chose qui contredirait ce sur quoi la voie est, qui contredirait cette personne. Parfois, il en arrive même à ce qu'une personne, lorsque tu lui dis « jure sur Allah tabaraka wa ta'ala », il est prêt à jurer sur Allah Azza wa Jal en mentant. Il est prêt à jurer sur Allah Azza wa Jal en mentant. Mais si tu lui dis « jure sur la tête de la personne du shir de cette voie, soufi », il ne le fait pas. Bien sûr, on remet les choses dans leur contexte, comme on l'a déjà évoqué. Le musulman n'a le droit de jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal est soit du polythéisme mineur, soit du polythéisme majeur. C'est une forme de polythéisme en tout cas, le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Ici, on ne parle pas de ça. On parle du fait que la personne n'a pas de mal à jurer en mentant sur Allah tabaraka, ou par Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Wallah, alors que c'est un menteur. Mais lorsque tu lui dis jure sur la tête ou jure par la personne qui est le cheikh de la voie soufie, eh bien il dit je peux pas. Tellement il a peur de cette personne, il pense que si il jure en mentant sur cette personne, il va lui arriver quelque chose. Ceci est un exemple de khawf sirr, la peur secrète, la peur cachée. Et ceci est une chose qui fait partie de des formes de peur qui ne doivent être vouées que à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'une personne voue cette forme de peur à autre que lui, azza wa jal, il sera tombé dans de l'association. Ici, la troisième forme d'adoration qui a été évoquée par Cheikhoul Islam est ar-raja, ce qu'on pourrait traduire par l'espérance. Ar-raja, l'espérance. Nous avons cité au début du cours que les trois piliers sur lesquels doit être construite chacune de tes adorations sont l'amour, al-mahabba, al-raja, l'espérance, et al-khawf, la peur. Comme cela, tu dis minimum 17 fois par jour Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci, l'amour, al-hamd, cet éloge, cette louange que tu vois à Allah Azza wa Jal, qui est accompagnée d'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, il y a l'espérance en la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maliki Yawmiddin, le Seigneur du jour de la rétribution. Ici, il y a la peur que tu as en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces trois-là sont les piliers de chacune de tes adorations, les piliers sur lesquels doit être construit chacune de tes adorations. Ici, il évoque Ar-Raja, qui est l'espérance. L'espérance, c'est la convoitise d'une personne dans, ou la convoitise qu'une personne place en une chose qui est facile à atteindre. La convoitise que place une personne dans une chose qui sera facile à atteindre. On appelle ça Ar-Raja. Si cette chose est difficile à atteindre, on appelle ça dans la langue arabe Al-Tamanni. Ceci est un autre sujet. Ar-Raja, ici, l'espérance, c'est la convoitise que place une personne dans une chose qui sera facile à atteindre. Et cette espérance que tu places en Allah Azza wa Jal, que tu désires, que tu voues comme adoration à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, est une chose qui renferme le sens de l'avilissement, de s'humilier, de s'avilir pour Allah Azza wa Jal dans tes adorations. Cette chose-là ne sera autorisée à être vouée que à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que tu as le droit d'espérer en le fait qu'une personne t'accorde ceci ou cela. Tu espères que un tel va te rapporter à la prière de Dhuhr telle et telle chose que tu lui avais demandé, tel et tel livre. Tu espères, tu as ce raja. Mais cette espérance qui renferme le fait de s'avilir et de s'humilier pour une personne, cette chose-là sera l'adoration qui ne devra être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le dernier, nous terminerons sur cela. At-tawakkul. At-tawakkul est une autre forme d'adoration qui a été évoquée par Cheikh l'Islam ici, rahimahullah ta'ala. At-tawakkul qui est le fait de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, de placer sa confiance en lui. At-tawakkul ala Allah. Tu places ta confiance, tu te remets à Allah Azza wa Jal. At-tawakkul dans la langue arabe, c'est al-i'timad ala Allah, ou dans le terme légiféré de at-tawakkul, c'est al-i'timad ala Allah kifayatan fi jalb al-manafi' wa daf' al-madar wa la yatanafa ma'a al-akhdh bil asbab. En résumé, la traduction résumée, c'est le fait de s'en remettre à Allah. At-tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal dans le fait de ramener un bien, d'amener un bien et de repousser un mal. Et ceci ne contredit pas le fait de prendre les causes, le fait de faire les causes pour arriver à ce que tu désires. C'est de se remettre à Allah Azza wa Jal pour ramener un bien ou pour repousser un mal, et ceci ne va pas à l'encontre, ne contredit pas le fait de prendre les causes. Une chose sur laquelle on terminera, le fait que at-tawakkul, il y a trois choses dans at-tawakkul. At-tawakkul, le fait de se remettre en Allah, de placer sa confiance en lui, il y a trois choses. Il y a une croyance, il y a le fait de placer sa confiance, et il y a le fait d'œuvrer. Il y a ces trois sens-là dans le terme at-tawakkul. La croyance, le fait de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de faire la cause d'œuvrer. Et on terminera le cours d'aujourd'hui par cette parole de Cheikh al-Islam, qui est une parole très importante. Il dit, rahimahullah ta'ala, Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il dit, le fait de s'en remettre uniquement aux causes, ceci est de l'association. Il dit, al-iltifat ila al-asbab, shirk. Al-iltifat ici, bima'na al-i'timad. Le fait de s'en remettre uniquement aux causes, ceci est de l'association. Le fait d'annuler et de ne pas prendre en compte les causes, ceci est un manque de raison. محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. C'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître qu'une chose est une cause, ceci est un manque de raison. والإعراض عن الأسباب الكلية يعني ترك الأسباب قدح في الشرع. Le fait de se détourner complètement des causes, ceci est une diminution ou une critique que tu feras dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, le tawakkul, le fait de se remettre à Allah Azza wa Jal, de placer sa confiance en lui, il ne sera complet, il ne sera parfait que par trois choses. Le fait de ne pas se reposer uniquement sur les causes. On a dit que le tawakkul, n'allait pas à l'encontre des causes, c'est-à-dire ne contredisait pas le fait de prendre les causes, de faire les causes. Et on a dit que le tawakkul était aussi une œuvre. Tu devais œuvrer, tu devais faire ces causes. Le fait que tu te lèves de chez toi et que tu marches pour aller à la mosquée, pour venir prier Salat al-Dhuhr. Ceci est une cause. Le fait que tu montes dans ta voiture pour avancer, pour venir jusqu'à la mosquée, ceci est une cause. Donc, trois choses. Le fait que de se remettre et de se remettre uniquement aux causes, ceci est un acte d'association. Tu auras associé à Allah, tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose, le fait de ne pas estimer les causes comme étant des causes, ne pas prendre en compte les causes comme étant des causes, ceci est un manque de raison. On le sait, c'est quelque chose qui est raisonnable, une chose qui est acceptée par la raison, de voir que telle ou telle chose est une cause. Le fait de nier que cette chose est une cause, eh bien ceci sera un manque de raison. Et la troisième chose, c'est le fait de se détourner complètement des causes. Tu restes à la maison et tu te dis, je vais aller à la prière pour faire les salat al-dhuhr, mais tu ne bouges pas. Tu arriveras à délaisser complètement les causes. Ceci est un qadr fi shara, c'est-à-dire une critique de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce tawakkul ne sera complet qu'en ayant pris en compte ces trois choses-là. Il y a dans ce sens-là le fait de se remettre à Allah azawajal par son cœur, car le tawakkul c'est une adoration de cœur. Une adoration qui se trouve dans le cœur, le fait que tu t'en remettes et tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est une très grande adoration. Comme le dit Allah azawajal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, celui qui s'en remet à Allah azawajal, qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.